Ce message vous est proposé par Church Team Ministries International Île-Maurice. Que le Seigneur vous bénisse.
Bonsoir à tous. Content de vous voir. Content de vous voir, vous retrouver et rencontrer tous ceux qu'on ne connaît pas. C'est toujours une joie d'être dans la famille du Seigneur, de rencontrer les frères et sœurs. On dit toujours, c'est la plus belle famille au monde. Là où le Seigneur a renversé toutes les barrières et a uni nos cœurs ensemble pour pouvoir le servir. Il est un témoignage de son amour. De voir les gens de toute culture, de race, de couleur, se réunir ensemble et s'aimer. C'est extraordinaire. Ça ne peut qu'être le résultat de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Seul son amour peut briser tous ces obstacles. Il nous emmène à nous aimer les uns les autres. Et Jésus a dit que c'est comme ça que le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc c'est merveilleux, c'est encourageant de voir la parole du Seigneur gagner du terrain, de voir l'Évangile prendre nos cœurs, prendre nos vies, de ressentir la main du Seigneur sur nos vies. De ressentir qu'il nous change, il nous transforme à son image de plus en plus. C'est ça le plan de Dieu pour nous aujourd'hui. Que l'Église a besoin d'accepter. De ne pas toujours chercher notre bénéfice dans l'Église. Et de réaliser que le Seigneur veut nous emmener de plus en plus à son image, de devenir des hommes et des femmes de l'Esprit qui cherchent premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et ne pas toujours chercher à posséder et à chercher à gagner bien nos cœurs. Plus l'Esprit du Seigneur nous éclaire, nous comprenons que la vie chrétienne, c'est de devenir comme Jésus de plus en plus sur cette terre, jusqu'au jour où on le verra face à face et que nous serons transformés. Alléluia, c'est merveilleux. Et donc, pendant ces quelques jours, ce soir, tout au moins, je voudrais partager un petit peu avec vous des dangers, je sais pas si c'est français le mot méfait, je sais pas, les méfaits de la chair. C'est français? J'ai oublié de demander à ma femme avant de venir. D'habitude, je check un petit peu avant mon français avant de venir. Mais bon. C'est vrai que quand on voit le monde aujourd'hui et comment le diable, qui est le prince de ce monde, se sert de tous les moyens pour atteindre notre chair. Pour emmener notre chair à se réveiller à ses désirs. Et c'est là notre destruction. Quand on voit un homme dans la Bible comme Démas, nommé Démas, qui était un collaborateur avec Paul, la Bible nous dit comment Paul dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Je ne crois pas que cela ait été une décision. Un seul coup, Démas s'est levé le matin et a dit « Ok, moi j'abandonne l'œuvre de Dieu, j'abandonne la course et je vais dans le monde ». Non, je ne crois pas que ça s'est passé comme ça. Nous savons tous ici dans cette salle, nous savons quand notre chair prend le dessus. Nous savons quand les œuvres de la chair veulent se manifester. Je ne crois pas qu'il y a lieu de donner une description de ces choses. Et cela a dû certainement faire la tristesse de Paul de voir des masses abandonner le plan de Dieu par amour pour le siècle présent. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé de Démas? Mais le siècle présent, le monde, les désirs de ce monde, les convoitises, ont fini par avoir le dessus sur sa chair. C'est sa chair qui a failli. Et comment nous sommes appelés à nous soumettre à la voix de l'Esprit. Et se soumettre à l'Esprit, mes frères et sœurs, n'est pas simplement entendre sa voix et faire. Il y a un combat. Il y a une perte. Il y a une perte de sa vie. Et si nous ne sommes pas prêts à perdre cette vie, c'est la chair qui va prendre le dessus. C'est les convoitises de la chair qui vont prendre le dessus. Arrêtons de trouver une autre raison. La raison de la chute, la raison de notre éloignement, la raison de notre perte, c'est quand notre chair finit par avoir le dessus et qu'on refuse de perdre notre vie. Perdre sa vie, c'est quoi? Perdre sa vie, c'est simplement ne pas se soumettre au désir de la chair. Et il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour perdre sa vie. Pour se renier soi-même. C'est le chemin de la croix. Ce chemin que le Seigneur place devant nous. Quand vous lisez avec moi l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 3, la chair, mes frères et sœurs, va nous emmener à pécher si on n'est pas prêt à perdre notre vie. Paul parle dans le livre des Corinthiens comment cette Église qui avait bien commencé, Paul avait posé le fondement dans l'Église. Elle avait bien commencé, mais quelque part, la chair a pris les dessus et cette église est devenue une église charnelle. Une église charnelle. Si vous lisez l'épître aux Corinthiens, vous allez voir qu'il y a le tout. Il y a le tout dedans. Il y a du désordre, il y a des bagarres, il y a de la compétition, il y a de l'hypocrisie, il y a de l'immoralité. Et Paul écrit cette lettre pour le parler de tout ce qui se passe dans l'Église. Comment le peuple de Dieu s'était éloigné du fondement même de l'Évangile et la chair avait pris le dessus. Il y avait de la compétition dans l'Église. Extraordinaire. Entre frères et sœurs. La division. Et Paul a dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous parle, mais comme à des hommes charnels. Je ne peux même pas vous donner de la nourriture solide, mais vous êtes juste bon pour du lait. Tout ce que vous êtes bon. Parce que la chair avait pris le dessus complètement. C'est comme si il fallait recommencer à zéro. Et pourtant, l'apôtre Paul avait posé le fondement à Corinthe. Je crois que c'est l'église où, quelque part, il avait passé le plus de temps. La Bible nous dit, pendant un moment, il avait passé un an et demi à Corinthe, instruisant, exhortant, encourageant, enseignant le peuple de Dieu. Et là, il écrit cette lettre au chapitre 3, verset 1, il dit, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Au lieu d'être un témoignage, ils étaient un contre-témoignage. C'était les plaisirs de la chair, les désirs de la chair, les convoitises de la chair. C'était un laisser-aller total. Si vous connaissez un peu la Bible, que je crois que vous connaissez, vous savez très bien les sujets que Paul a traités dans cette première épître. Ça fait quand même un peu peur. Et voir à quel point ils étaient arrivés, comment la chair s'était manifestée au milieu d'eux, d'une manière extraordinaire. Et au fait, quelque part, ils avaient refusé de prendre le chemin de la croix et de perdre leur vie. Refusé. Et quand on regarde l'état des chrétiens aujourd'hui, on réalise que celui qui ne veut pas prendre le chemin de la croix sera complètement abattu et détruit. Et c'est aussi simple que cela. N'essayons pas de trouver d'autres raisons. On va perdre notre temps. L'église de Corinthe était devenue charnelle. Vous savez, quand vous laissez votre chair prendre le dessus, ça affecte tout. Ça affecte vos pensées, ça affecte tout, tout votre être entier. Et en même temps, au moment donné, le résultat final serait que votre cœur va finir par se gâter. Oui ? Et là, c'est la fin. Là, c'est la fin. À moins d'un miracle de Dieu. À moins d'une repentance à 180 degrés. Et c'est vrai en plus. Et l'apôtre Paul s'est laissé aller dans le sens où il a parlé clairement à l'église de Corinthe pour leur montrer leur état. Leur état. C'est comme si que vous connaissez des chrétiens qui, au moment donné, c'est plus la peine de leur parler. Mais c'est ça où Paul, quelque part, était arrivé. Il a écrit cette lettre sévère jusqu'au point où les Corinthiens leur disent « Mais quand tu es au milieu de nous, avec nous, tu ne nous parles pas de cette manière. Mais quand tu nous écris, tu nous parles sévèrement. » Je vous donne du lait, je ne peux même pas vous donner de la nourriture solide. Comme si que ces Corinthiens ne comprenaient plus rien de la vie chrétienne. Rien. Ils ne pouvaient même pas aller un petit peu en profondeur. Mes frères et sœurs, les œuvres de la chair vont nous détruire. Si on ne prend pas la résolution dans notre cœur de prendre ce chemin de la croix et de perdre notre vie. Perdre notre vie, c'est permettre à la chair de mourir. Perdre notre vie, c'est le crucifier sa chair avec ses désirs et ses passions. C'est pourquoi l'évangile de la croix, vous la retrouverez partout dans la Bible. Partout. Parler de différentes manières. Communiquer, si vous voulez, dans un langage un peu différent, mais le même esprit. La même communication spirituelle. Le même challenge, le même défi. Et si on ne veut pas perdre sa vie, mes frères et sœurs, c'est la chair qui va nous détruire. C'est très très simple à comprendre cette chose-là. Il ne faut pas aller bien loin. Il ne faut pas aller rentrer dans toutes sortes de complications. Et cette chair n'est pas maîtrisée, n'est pas sous contrôle. C'est la perte qui nous attend. Toute notre vie chrétienne va être affectée. Tout. C'est extraordinaire. On peut devenir même malade avec ces choses-là. Toute notre vie est affectée. Ça commence par un désir. Ça commence par une manifestation de la chair. Et ça peut finir jusqu'à un cœur qui est pourri. Et on se demande combien de milliers de chrétiens aujourd'hui continuent à vivre leur vie. Ils ne réalisent même pas que Dieu ne les entend pas. Oui. Ça nous emmène à ne même plus pouvoir communier avec Dieu. Vous savez, dans l'Église aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens qui parlent à Dieu, mais Dieu n'entend pas. Parce qu'ils ne sont jamais appelés ni encouragés à prendre leur croix et de suivre le Seigneur et à perdre leur vie. Et ils continuent à vivre selon la chair, avec un cœur pourri, mais en même temps, ils essaient de parler à Dieu. Et la base même de la vie chrétienne, c'est qu'on ne peut même pas s'attendre à ce que Dieu nous entende. Si notre cœur n'est pas droit, si on vit dans le péché, si on vit selon la chair, selon les plaisirs de la chair, Dieu ne nous entend même pas. On peut se frotter les genoux à terre pendant des heures, mais notre communion avec Dieu n'existe plus. Et dans l'Église du Seigneur, aujourd'hui, il y a tellement d'émotions, il y a tellement des choses superficielles que les chrétiens continuent à prier, mais Dieu ne les entend pas. Il ne les entend pas. Dieu ne peut pas entendre un chrétien qui vit dans le péché, à moins qu'il ait décidé, qu'il est prêt à crier à Dieu pour se repentir et s'en sortir. Autrement, Dieu ne l'entend pas. C'est dur, peut-être, ce sont des paroles assez dures, mais c'est clair, c'est comme ça. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, au verset premier. Seul le message de la croix peut nous faire comprendre que nous ne pouvons pas continuer à communier avec Dieu si notre cœur n'est pas droit. Vous avez entendu ou non? Seul le message de la croix peut nous emmener à comprendre qu'on ne peut pas continuer à communier avec le Seigneur quand notre chair est en train de prendre le dessus. Vous retirez le message de la croix et vous continuerez à essayer de parler à Dieu. Et rien ne changera dans votre vie. Or, le prophète Ésaïe dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettront une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » On est d'accord? Et 95% des péchés dans notre vie, c'est les œuvres de la chair. Absolument. Si vous prenez toute la liste dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, vous allez voir que tout ce que nous pouvons faire comme péché est listé là-dedans. 95%, c'est listé dans les œuvres de la chair. Et quand le message de la croix ne vient pas traiter notre vie, nous allons continuer à prier, continuer à lire la Bible, continuer à essayer de mener notre vie chrétienne sans que Dieu nous entende. Absolument. Et quel est le résultat final? C'est de devenir un homme religieux. On connaît la Bible et puis c'est tout. Un homme religieux. Il prie parce qu'il sait qu'il faut qu'il prie. Il lit la Bible parce qu'il sait qu'il faut lire la Bible. Mais entre-temps, il n'est pas prêt à perdre sa vie. Ce sont les œuvres de la chair qui se manifestent et il croit que Dieu l'entend. Le pauvre. Dieu ne l'entend pas. Et notre communion avec Dieu est perdue. Quand les œuvres de la chair prennent le dessus. Et je répète, il y a des millions de chrétiens qui s'asseyent dans les églises et qui n'ont plus de communion avec Dieu. Ils croient peut-être qu'ils en ont, mais ils n'en ont pas. Ils n'ont pas, parce qu'ils ne sont pas prêts à perdre leur vie. Ils ne sont pas prêts à marcher sur ce chemin de la croix. Ils ne sont pas prêts à mourir à eux-mêmes. Ils ne sont pas prêts. C'est exactement ce qui s'est passé dans le livre de Corinthe, quand vous lisez cette première épître. Ça se demandait s'il était chrétien. Ça se demandait. Ils mangeaient ensemble, ils prenaient le repas du Seigneur, ils étaient ivres. L'autre commettait l'immoralité. Il y avait des procès entre eux. Ils se battaient, il y avait de la division, il y avait de la compétition, il y avait de la jalousie. Toutes ces choses-là sont listées comme les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Ils sont sortis de cet état spirituel et ils ont rétrogradé. Et ils ont marché selon la chair. Et c'est triste de voir que les chrétiens ne réalisent pas qu'ils perdent leur communion avec Dieu. À quoi sert-il si nous ne sommes pas prêts à crucifier cette chair avec ses passions et ses désirs? À quoi sert-il de se mettre à genoux et de prier le Seigneur? La seule raison qui peut nous mettre à genoux, c'est quand on se repent, on dit « Seigneur, voilà mon état, aide-moi ». Là, il nous entend. Autrement, il ne nous entend pas.
Si on reste dans cet état, sans repentance et sans conviction, et sans attitude où on est prêt à perdre notre vie, vaut mieux même pas se mettre à genoux. Ça ne sert à rien. C'est comme le Seigneur qui dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, dépose-là ton offrande, va te réconcilier, puis retourne, emmène ton offrande. Donc ça ne sert à rien d'emmener ton offrande dans cet état. Absolument rien. Rien. Garde-la. Et ne te crois pas que cette offrande est une semence. Elle n'est même pas une semence. Elle n'est rien. Ça ne sert à rien. On a tellement dilué l'évangile, on a tellement compromis l'évangile qu'on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. On admet tout, on connaît la Bible. Et les Corinthiens connaissaient tellement la Bible que regardez leur état. Regardez leur état. Ce n'est pas différent de l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas bien différent. Et l'apôtre Paul a eu à les reprendre et les reprendre sévèrement. Il leur a montré leur état charnel. C'est ça qu'il dit là-dedans. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels que je vais vous parler. Il met bien le point sur le i. Des hommes charnels. Charnels. C'est-à-dire que les œuvres de la chair ont pris le dessus. Et ils sont devenus dans cet état. Ce n'est pas comme quelqu'un qui prend sa croix qui est prêt à perdre sa vie, mais qui tombe. Une faiblesse de la chair, il tombe. Ce n'est pas un état. C'est une faiblesse, c'est une chute. Mais là, il me semble que c'est un état. Les Corinthiens, ils étaient arrivés dans un état charnel. C'est comme si que n'importe quoi les faisait déclencher. N'importe quoi, n'importe quelle petite tentation, paf! C'est dangereux de vivre dans cet état d'esprit, dans l'Église du Seigneur. Les frères et sœurs, Dieu accepte la chute, mais Dieu refuse d'accepter un état de celui qui ne veut pas, de celui qui croit qu'il peut, de celui qui se laisse aller dans sa chair. Et en même temps, il vient à l'Église, il appelle sa conscience, il devient religieux, pharisien, il prie, il lit la Bible, il apprend des versets par cœur. Tout ça, c'est zéro. Vaut rien, absolument rien. Et c'est cet état charnel que l'apôtre Paul s'oppose. Et il vient parler, entre le chapitre 1er et le chapitre 3, il vient parler du message de la croix. Qui est la puissance de Dieu. Oui. Qui n'est pas la sagesse de l'homme, mais qu'une sagesse divine. Qui confond l'intelligence des hommes. Parce qu'il est bien conscient que seul le message de la croix peut emmener quelqu'un à décider de maîtriser sa chair par l'œuvre de Dieu dans sa vie, par la grâce de Dieu dans sa vie. Un état. Il faut faire la différence, mes frères et sœurs, entre un état. Il y a des chrétiens qui vivent tous les jours dans ce même état. C'est grave. C'est grave d'avoir un chrétien qui s'est tellement laissé aller dans la chair où au moment donné, son cœur est pourri et il vit avec ce cœur pourri tous les jours dans un état charnel. Et il prie, mais arrête de prier, repens-toi. On vient de voir que ces prières, Dieu n'entend même pas. N'entend pas. Je disais aux jeunes dernièrement, la semaine d'avant, quand on avait dans le camp des jeunes, je lui ai dit que la chrétienté n'a pas de place pour les émotions. Il n'y a pas de place pour les émotions dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de place. C'est spirituel, c'est un état de cœur. C'est une vie. Et là, on voit bien l'apôtre Paul qui se lève et s'adresse à cette église qui était dans un état charnel. C'est comme si, qu'il faut, on dit tout à l'heure, il faut recommencer à zéro. Il faut aller comme s'il fallait qu'il caresse. On peut plus parler droit. On ne peut plus parler clairement. Il faut aller doucement, là. Attention, ça peut casser, là. Comme on dit, ça passe ou ça casse. C'est vrai ou non? Hein? La chair nous emmène loin. Loin. On se demande comment... C'est vrai, quelquefois, quand on pense à cela, on n'arrive pas à comprendre comment des gens spirituels finissent par détruire leur vie. La réponse est simple. La réponse est simple. La chair. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Et on peut comprendre aujourd'hui, quand on voit toutes ces destructions, quand on voit toutes ces vies perdues, même dans la Bible. Dans la Bible. Laissons ce qu'on voit autour de nous, ce qu'on entend, ce qu'on voit à la télévision chrétienne et ce qu'on entend partout. Mais même dans la Bible, des gens charnels, des chrétiens charnels ont tout perdu, tout perdu. Et quand on est arrivé dans cet état-là, on ne comprend plus rien. Vous demandez à un chrétien qui vient naître de nouveau, vous lui dites, ben, c'est qui te fait grandir? Il va vous répondre bien clairement, il va vous dire, c'est le Seigneur. Mais les Corinthiens étaient arrivés dans un état où bien c'était Paul, ou bien c'était Apollos, ou bien c'était je ne sais trop qui. C'est plus le Seigneur, là, c'était venu un homme. Extraordinaire, hein? Comment arriver à ce stade? Qu'est-ce qui peut nous emmener là? Qu'est-ce qui peut nous emmener là? Si ce n'est pas la chair. Ce n'est pas le raisonnement, bien sûr. C'est la chair. Et l'Église a besoin de comprendre que notre plus grand ennemi, c'est la chair. C'est ce qui vit en nous. Et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus ma chair qui vit. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus mon vieil homme, c'est Christ qui vit en moi. L'homme qui a pris sa croix, l'homme qui a perdu sa vie, l'homme qui a été prêt à renier soi-même, à se charger de sa croix et de suivre le Seigneur. Et il déclare publiquement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres mots, il dit, ce n'est plus ma chair qui me dirige. Je n'ai plus ma chair. C'est vrai. Et souvent, même notre raisonnement se détourne à cause de notre chair. Oui. On arrive à raisonner comme des abrutis parce que notre chair a pris le dessus. Oui. On arrive à ne plus comprendre. On est géré par notre chair. Et on ne réalise pas, mes frères et sœurs. On ne réalise pas. Et on se laisse aller. Et on a besoin de comprendre que cette chair peut nous emmener bien, bien loin. Bien, bien loin. C'est pourquoi aujourd'hui, quelque part, celui qui prend le chemin de la croix n'a pas peur de sa chair, bien qu'il sache que sa chair est faible. Mais il n'a pas peur, parce qu'il sait que sur ce chemin, le Seigneur lui donnera la victoire là-dessus. Amen. Il sait que ça fait mal de perdre sa vie. Il sait que ça lui coûte un prix de s'humilier. Mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Parce qu'il compte sur la grâce du Seigneur. Il sait que ce n'est pas par sa force. Il sait qu'il ne peut plus rien. Qu'il ne peut rien. Que seul le Seigneur peut le faire pour lui. Mais sur ce chemin de la croix, il goûtera à la grâce de Dieu et le Seigneur le délivrera. Tu ne veux pas prendre le chemin de la croix, c'est ta chair qui va te dominer. Ça va te dominer jusqu'à ce que tu viennes esclave, esclave de tes pensées, esclave de toutes choses. Si seulement on pouvait comprendre la force de la chair. Jésus a dit à ses disciples pendant une heure de temps, on ne pouvait même pas prier. Une heure de temps, vous ne pouvez pas tenir en prière. Vous avez sommeil. Vous n'avez pas pu résister. Vous avez dormi. Au lieu de prier, au lieu d'être avec moi, au lieu d'être un avec moi, c'était quoi? C'est quoi le sommeil? C'est quoi le sommeil? Oui. Épître aux Galates, au chapitre 5, le verset 16 nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Combien d'entre vous savent que marcher selon l'esprit, ce n'est pas seulement écouter la voix du Saint-Esprit et de dire oui, ok. Il y a une soumission, il y a une obéissance, il y a un brisement. L'obéissance est toujours acceptée, accompagnée, pardon. L'obéissance est toujours accompagnée par une œuvre de Dieu. Quelque chose que le Seigneur nous demande que notre chair ne veut pas. Autrement, ce n'est pas de l'obéissance. Il n'y a pas d'obéissance si ça ne coûte rien. Tu es d'accord avec moi? Hein, ça ne coûte rien, il n'y a pas d'obéissance. C'est pourquoi marcher selon l'esprit, c'est quoi? Obéir. Obéir, ce n'est pas simplement une décision. Il y a une mort. Il y a une mort. Il y a une perte. Mais si nous voulons obéir et que notre cœur résiste, ce n'est pas la marche de l'esprit. Même obéir par force n'est pas la marche de l'esprit. Obéir par obligation n'est pas la marche de l'esprit. La marche de l'esprit, c'est quand il y a une soumission. Et tant qu'il n'y a pas cette soumission, et cette soumission veut dire perte de soi-même. Autrement, ce n'est pas de l'obéissance et ce n'est pas de la soumission. Parce que la chrétienté n'est pas un code. Elle est une relation avec le Seigneur. Elle est une relation où le Seigneur nous demande. Jésus s'est soumis à son Père en allant à la croix. Il y a eu un prix à payer. On est d'accord ? Il y a eu un prix à payer. Chaque pas d'obéissance est une mort. C'est comme ça. Ouais. La marche de l'esprit, c'est pas « Ah, tiens, ah oui, le Seigneur me demande ça, allez, allons. » Mais avant d'aller là, c'est rien que parce que le Seigneur nous a demandé de faire ça, c'est contraire à ce que je veux. C'est contraire au désir de ma chair. C'est contraire au plaisir que ma chair cherche dans une vie contraire. On est d'accord ? Hein ? C'est pourquoi l'apôtre Paul vient nous dire « Marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est tout simple. Tout simple, mais il y a une croix. C'est pas simplement « Ah ouais, d'accord. » Ça coûte d'obéir. Ça coûte de s'humilier. Ça coûte de se soumettre. La marche de l'esprit a un prix. Il ne faut pas croire qu'on se dise « Ok, moi maintenant je suis plus un païen, je suis un chrétien, super, excellent maintenant. J'apprends la Bible, je lis la Bible, j'essaye de mémoriser un peu, mais tout va marcher. » Non, 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 tu te trompes beaucoup. C'est ça où l'Église a passé à côté, parce qu'elle a enlevé le message de la croix. Elle a enlevé la part qui nous revient. Elle a enlevé la part qui nous revient. Et on a cru que tout était dû. Parce qu'on est chrétien, tout est dû. Tout devient cool. Qui c'est qui vous a dit que la chrétienté est facile ? N'écoutez pas. On suit ou non ? Marcher selon l'esprit. Ouais. Ah oui, je suis d'accord. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a les désirs contraires à l'esprit. Donc, à cause de cela, il y a une soumission, une obéissance et un brisement. Et une mort. Si on veut marcher par l'esprit. Vous voulez lire avec moi les œuvres de la chair ? Peut-être ça vous dirait quelque chose. Or, les œuvres de la chair, au verset 19, elles sont évidentes. La débauche, l'immoralité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, il doit y avoir une autre liste encore. Hein ? Ça fait un peu tout, là. Hein, c'est... C'est vrai ? L'apôtre Paul nous dit ôtez le levain au milieu. Ôtez le levain. Ôtez. Parce que ça fait lever toute la pâte. Il faut faire attention. Parce que L'œuvre de la chair dans notre vie ne nous permet pas de vivre la vie de l'esprit. Ne nous permet pas de vivre une vie de l'esprit. Et Paul veut nous expliquer que comme quoi un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Un petit peu de laisser aller de la chair emmène la destruction de toute la vie. De toute la vie. Si on n'est pas prêt, si nous ne sommes pas prêts à maîtriser cette chair depuis le début et qu'on laisse ce levain dans la pâte, toute notre vie est gâtée. Toute notre vie est gâtée. Comme on enlève le message de la croix, de l'évangile, on finit avec le compromis. On finit avec un message dilué, où Dieu comprend tout et il m'aime, il connaît tout, il est avec moi partout, il est autour de moi, il m'aime, il m'entend, il fait tout pour moi. C'est faux! C'est là où le compromis vient, c'est là où on se fait, on voit Dieu à la manière que notre chair veut voir. Et on a une image de Dieu totalement transformée. Oui. On ne voit plus la justice de Dieu. On ne voit plus la vie chrétienne avec une crainte dans notre cœur. Parce que c'est mélangé maintenant. Ça a été mélangé. C'est pourquoi ce petit morceau de levain-là est bien dangereux. Bien dangereux. Parce que si on ne comprend pas le vrai message de l'évangile de la croix, on garde le levain, on ajoute encore un petit peu de vin, la pâte monte et on n'a pas de problème, la pâte continue à monter, la pâte continue à monter et on continue notre vie. Et on prie, et on loue le Seigneur, et on chante, et on tape les mains, et on fait toutes sortes de choses. Pour rien. Pour strictement rien. C'est pourquoi je dis toujours, le message de l'évangile de la croix vient mettre de l'ordre. Vient mettre la vérité selon Dieu. Oui. Ça vient exposer, ça vient nous montrer comment, deal c'est quoi ? Traiter cette chair. Le seul moyen. On ne peut pas traiter cette chair par rien d'autre que le message de la croix. On ne peut pas. On ne peut pas. On va détruire notre vie par tout autre moyen. On va arriver jusqu'au bout, jusqu'au fond du trou. Et on va chercher Dieu même. Dans le trou, là où on est, on va toujours chercher Dieu même. On ne va pas y arriver, mes frères et sœurs. On ne va pas y arriver. Ouvrez votre Bible avec moi dans Romains chapitre 6. Jamais garder le levain dans notre vie. Jamais. Jamais de permettre à cette chair de continuer à vivre. Romains chapitre 6, nous lisons le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec le Seigneur, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. On est d'accord? Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une possibilité que cette chair soit crucifiée au point où nous ne sommes plus esclaves du péché? C'est possible ou non? C'est possible. C'est possible. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Qui a compris là? Celui qui est mort est libre du péché. Celui que sa chair est encore vivante est toujours esclave du péché. D'accord? C'est ça? Celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Je répète encore, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus sa chair. Ah, certainement qu'il y a des combats. Je vous ai fait la différence, on ne va pas retourner là-dessus. D'accord? Je vous ai fait la différence entre un état et celui qui tombe. D'accord? Certainement que Paul aussi a eu ses hauts et ses bas. Hein? Il n'est pas parfait, personne n'est parfait. Nous sommes tous dans le même... Comme ça. Parce que nous sommes encore dans ce corps charnel. D'accord? Et c'est seul le Seigneur Jésus qui a pu maîtriser cette chair à 100%. Et personne d'autre ne le pourra. D'accord? Donc il y a un état et un. Allez, vous avez compris. Hein? Une faiblesse. Une chute, voilà. Et celui qui est mort, il est libre du péché. Ça, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Ça, c'est le plan de Dieu pour la vie de tous les chrétiens. Et la clé, ce n'est pas de laisser ce levain dans la pâte. C'est-à-dire, pas de compromis. Pas de compromis. Moi, je l'ai dit dernièrement, je le dis encore, s'il n'y avait pas le message de la croix dans ma vie, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Moi, je vous dis franchement, je ne serais pas où je serais aujourd'hui. Je ne sais pas. Même avec le message de la croix, je lutte. Et vous? Oui. Oh, vous êtes d'accord? Oui. Et sans le message de la croix, où serions-nous? Où serions-nous? En train de prier encore dans le péché. En train de prier encore, de lire notre Bible comme des religieux et des pharisiens, croyant que Dieu nous entend, mais en même temps laisser aller de la chair. Où c'est devenu, où ça serait devenu un état. Et ça fait peur. Ça fait peur, cet état charnel. Je ne sais pas si ça vous fait peur, mais ça fait peur. Quand je lis l'Épître aux Corinthiens, l'état où l'Église était arrivée, cet état charnel, où ça fait peur. On ne peut rien espérer de Dieu dans cet état. On ne peut rien recevoir de nos promesses. Des promesses du Seigneur dans cet état. C'est alarmant. Le
Pourquoi il faut redresser la situation rapidement pour ne pas laisser cette chair nous dominer. Et la solution, c'est la repentance. C'est la solution. C'est la repentance. Alléluia. Et à chaque fois qu'on se repent, le Seigneur nous donne la victoire.
Amen.
Alléluia. Et tant qu'on se soumet à la chair pour résister à la repentance, on est esclave. On demeure esclave. Qu'est-ce qui nous empêche de se repentir, vous croyez ? Hein ? L'orgueil de la vie, c'est quoi l'orgueil ? La chair de l'homme. Hein ? Oui, c'est ça. Moi, je vous dis, moi, 95% de nos problèmes. Les œuvres de la chair. Ça nous coupe de Dieu. Coupe notre communion avec le Seigneur. C'est important pour nous de comprendre, mes frères et sœurs. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne dans le compromis et ne pas avoir une image de Dieu telle qu'il est. Alléluia. Une image de Dieu telle qu'il est. Quand je veux vous encourager, comprendre que l'Église n'est pas un club, ni une association de bonnes personnes. Oui. Ni l'association de Saint-Vincent de Paul ou tout autre. Mais l'Église du Seigneur, ce sont les hommes et les femmes qui ont compris l'Évangile, qui sont prêts à perdre leur vie. Et je vous donne un dernier verset avant qu'on termine. Dans l'Épître aux Galates. Moi, je trouve ça extraordinaire, ce que je vais vous lire là. Extraordinaire. Le plus que nous remportons des victoires sur notre chair, le plus nous sommes libérés, le plus nous sommes délivrés, le plus nous devenons forts, et le plus nous devenons esclaves de Dieu. Paul dit, au chapitre 6, verset 14, c'est comme une vision, c'est comme quelque chose que nous voulons atteindre. C'est comme un but qu'on veut atteindre, que l'apôtre Paul a atteint. Le verset 14 nous dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Voyez dans quel état cet homme est arrivé, de par le fait qu'il a été prêt à perdre sa vie. Comment le Seigneur l'a libéré et l'a délivré
Il l'a emmené à être cet homme fait, spirituel au point où le monde est crucifié pour lui et lui, il est crucifié envers le monde. C'est comme si qu'il n'y a plus aucune relation entre lui, sa vie, son état et le monde. En d'autres mots, il a gagné la victoire parce qu'il a été prêt à perdre sa vie et à crucifier cette chair au point où le Seigneur a fait cette œuvre de plus en plus en lui pour l'emmener dans cet état spirituel et non plus charnel. Moi, je veux vous encourager à vous préparer et avoir comme mission dans la vie, comme but dans la vie, d'être un homme libre, d'être une femme libre. Et que les choses se passent autour de vous, mais vous êtes mort à ces choses-là.
Amen.
Mort à ces choses-là. Extraordinaire, hein? Et c'est comme ça, là où l'apôtre Paul est arrivé. Alléluia. C'est ça le but de la vie, sur cette terre. De devenir un homme spirituel, une femme de l'esprit. Qui n'a pas peur de faire face à ce monde. Qui n'a pas peur de sa chair. Bien que nous sommes tous vulnérables, parce que la chair est faible. Nous le savons. Mais le Seigneur veut nous emmener dans un état où nous sommes libres. Alléluia. Où nous sommes libres. Le danger, c'est de se croire trop libre. À ce moment-là, on veut faire les choses dans notre propre force. Mais il faut toujours garder ce même état de cœur. On ne peut absolument rien sans le Seigneur. Rien. Rien. C'est cet état d'esprit qui a besoin de demeurer en nous. Parce que si on perd cela, c'est là où ce n'est plus le Seigneur, c'est nous. Mais comme c'est nous, là, c'est la perte. C'est la perte. Il faut que ce soit toujours le Seigneur. Le Seigneur. Et qu'on lui fait confiance. Et qu'on comprenne la grâce de Dieu, la force de Dieu envers nous dans toutes nos situations que nous avons besoin de faire face. La chair. La chair. Un de nos plus grands ennemis aujourd'hui. Pourquoi je vous conseille, comme je m'encourage moi-même, à me fortifier dans le Seigneur. Alléluia. Et de continuer à prendre ma croix. Et de continuer à désirer perdre cette vie. Vous savez maintenant un petit peu qu'est-ce que c'est la description de la perte de sa vie. Perte de sa vie. Mes frères et sœurs, on ne peut pas changer d'évangile du jour au lendemain. On ne peut pas oublier l'évangile que l'apôtre Paul a prêché. Et on ne peut pas accepter un autre évangile. Garder, préserver, chérir. L'évangile qui va nous donner la liberté. Quand Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est dans cet esprit que Jésus a parlé. C'est dans cette lumière qu'il a communiqué à ses disciples.
Moi, je ne crois pas dans la vie chrétienne où on passe notre temps, toute notre vie entière, à se battre. Se battre avec nous-mêmes. Moi, je crois que le Seigneur veut nous libérer. Moi, je suis convaincu que le Seigneur veut me libérer. Amen. Et que je ne peux pas réagir à tout bout de champ, à toute chose autour de moi. À un moment donné, mes liens doivent être brisés avec cette chose, cette chose, cette chose, cette chose, cette chose. Et que là, avec les choses avec lesquelles j'ai été lié, n'ont plus de pouvoir dans ma vie. Ne m'attire plus. Je n'ai plus aucun désir, je n'ai plus aucune affinité avec ces choses. Moi, je ne crois pas que ma vie soit une vie de combat, parce que si ma vie est une vie de combat en 2008, en 2009, en 2010, ben, je ne sais pas ce que ça serait. Je ne pourrais plus apprécier ma relation avec le Seigneur, parce que je serai plutôt toute la journée, toute ma vie entière, est en train d'essayer de barrer les gaules. C'est pas possible. Je vois pas ça dans la vie de Paul. Je vois un homme qui avait une relation avec le Seigneur, un homme qui était de plus en plus libre. Et il parle dans l'épître aux Philippiens de cette perfection, de cette course qu'il court. Et moi, je crois là-dedans. Je crois à la victoire, je crois à la liberté que Dieu nous a donnée. Je crois dans cette victoire de Jésus-Christ à la croix. La Bible nous dit, l'apôtre Jean nous dit comment Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. C'est ça qu'il a dit, j'ai vaincu le monde. Et ne vous inquiétez pas. Je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Moi, je serai parti. Mais il a dit, ne vous inquiétez pas, car j'ai vaincu le monde. Je crois là-dedans. Vous croyez là-dedans?
Amen.
J'ai vaincu le monde. Alléluia. C'est encourageant de savoir que on peut vivre une vie chrétienne que j'appellerai normal. Et j'appellerai anormal que de rester dans un état de lutte, de combat, de frustration, de cœur qui est malade, etc. Ça, c'est anormal. C'est pourquoi il est temps qu'on ne laisse pas notre chair nous diriger, mais qu'on prenne le chemin qu'il faut. Prenne le chemin de la croix, qu'on accepte de perdre cette vie afin de gagner Christ. C'est ça que Paul parle, afin de gagner Christ. Je veux le connaître, qu'il dit. Je veux le connaître dans la puissance de sa résurrection, dans la communion de ses souffrances. C'est l'évangile de Paul. C'est l'homme de l'esprit. C'est l'homme qui a vécu ces choses-là. C'est l'homme qui a su crucifier sa chair avec ses désirs. Et cette vie est à nous, mes frères et sœurs. Elle est à nous. Elle n'est pas gagnée du jour au lendemain, mais elle est à nous. Nous sommes appelés à briller dans ce monde. Nous sommes appelés à remporter la victoire, et des hommes et des femmes qui sont détachés, délivrés du péché, qui marchent dans la justice du Seigneur, qui marchent dans la sainteté de Dieu. Que le monde voit que notre Dieu est vivant, qu'il est capable de nous changer, ce n'est pas nécessaire qu'on continue à lutter. Dieu laisse notre chair nous diriger, nous mener de gauche et de droite. On va prier le Seigneur ce soir. On se met debout.
Merci d'avoir écouté ce message. Nous espérons que vous avez été encouragé. Si vous souhaitez nous contacter, veuillez écrire à l'adresse suivante. CTMI, boîte postale 259, Curepipe, Île-Maurice. Notre adresse email, info@reseauctmi.org ou encore sur notre site internet, reseauctmi.org. Que la grâce de Dieu continue à vous fortifier et que Dieu vous bénisse.